Donc, il faut bien avoir en tête que même s'il n'y a plus d'insurrection, il y en a une à Marguerite en 1901, qui est un cas à part. Il y en a une autre dans les Aurès en 1916. C'est pas qu'il n'y a plus du tout d'insurrection, c'est qu'en gros, on peut en compter deux dans cette période. Mais disons, il n'y a plus l'enchaînement des insurrections. L'Algérie est sortie de l'état d'insoumission collective et armée à la colonisation française. Mais il y a toujours, du point de vue des autorités coloniales, du danger pour la tutelle coloniale française. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été vraiment une découverte, parce que quand on parle de la colonisation en général, on a souvent spontanément en tête que les autorités coloniales, finalement, elles sont arrogantes et sûres d'elles-mêmes. Et quand on lit les archives de l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Les administrateurs, il y avait en Algérie des communes mixtes qui étaient des très très grandes communes qui faisaient des centaines de kilomètres carrés. Ils avaient des dizaines de milliers d'habitants sous leur administration. Les administrateurs de communes mixtes faisaient des rapports de surveillance et ils rapportaient très précisément tous les faits qui, dans leur commune, pouvaient constituer des germes d'opposition à la colonisation française, et ils en étaient rudement inquiets. Que les impôts ne rentrent pas, c'est un grand motif d'inquiétude, et c'est une grande difficulté de faire rentrer les impôts, par exemple. C'est classique, hein, comme forme d'opposition à l'autorité centrale dans une société rurale, hein, le problème de la résistance à l'impôt. Alors, du coup, il faut un peu se sortir de l'esprit qu'il y a eu une période finalement où l'Algérie française était solidement installée et sans danger. Alors, il faut faire un tout petit peu attention, évidemment, parce que je vous dis ça à partir d'archives qui sont celles de la répression et de la surveillance. Et évidemment, les agents de la surveillance et de la répression, en gros, voient du danger partout. Hein, c'est quand même un peu le défaut. Si vous lisez les archives de police, il y a toujours du danger partout. Bon, mais quand même, il y a de véritables formes de résistance qui ne sont pas très visibles. Et puis après la Première Guerre mondiale, alors là, les résistances, elles sont évidentes, puisque c'est le moment où s'organisent des organisations collectives algériennes. C'est la naissance du premier parti nationaliste algérien, la première organisation nationaliste. Elle est formée en France en 1926, c'est l'Étoile nord-africaine, dont Messali Hadj devient le leader, et c'est la matrice, je dirais, du nationalisme algérien, donc la première organisation qui revendique clairement l'indépendance. Vous avez aussi le mouvement dit des oulémas. Les oulémas, ce sont en gros des réformateurs musulmans, ce sont des gens qui pensent que la société algérienne gagnerait à se rénover par l'islam, à se réformer par l'islam. Et les oulémas, ils s'organisent en grande association en 1931 et ils popularisent une formule qui est en gros, pardonnez-moi parce que je suis jamais sûre de la citer bien dans l'ordre, l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion et l'Algérie est ma patrie. Voilà. Alors, ils sont dans des formes de revendications, je dirais, religieuses et culturelles qui portent beaucoup sur l'enseignement de la langue arabe, la défense de la langue arabe, mais vous voyez bien la forme de résistance que ça représente. Et puis vous avez aussi un mouvement qui est plus en dialogue avec le colonisateur français, qui est le mouvement que l'on dit assimilationniste. C'est le courant finalement qui répond un peu aux occasions manquées que j'évoquais en introduction. C'est un courant qui réclamait tout simplement des réformes en faveur de l'égalité des droits pour les Algériens. Et donc on le dit assimilationniste parce qu'il réclamait l'entrée des Algériens dans la citoyenneté française. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que cela, mais j'y reviendrai. En tout cas, ce que je veux vous démontrer et ce que je voudrais que vous reteniez de cette première partie, c'est que il ne faut pas imaginer qu'il y a eu dans ces 130 ans de colonisation une longue période pacifiée pendant laquelle on pouvait être sûr du destin de l'Algérie française. Du point de vue des autorités coloniales françaises, il y avait toujours des menaces qui étaient perçues, très disséminées avant 14, et puis claire et nette avec les organisations politiques qui s'organisent dans l'entre-deux-guerres. Excusez-moi pour les organisations politiques qui s'organisent dans l'entre-deux-guerres, j'ai oublié le mouvement ouvrier français, mais le Parti communiste algérien, il se forme dans les années 30. Enfin, il y a d'abord une section algérienne du Parti communiste français, puis après il y a un Parti communiste algérien autonome, et dans beaucoup de cadres du mouvement nationaliste algérien ont acquis leur formation politique dans le frottement avec les militants du mouvement ouvrier français. Alors, le PCA n'était pas très algérien, entre guillemets, c'était un parti assez européen, même s'il y avait une volonté de s'algérianiser, c'était comme ça qu'ils disaient, ils avaient envie d'attirer des militants algériens. Mais dans le mouvement syndical sur les lieux de travail, il y a beaucoup de militants algériens qui, par la suite, gagnent les rangs du nationalisme et forment des cadres, en fait, du mouvement nationaliste. Bien, donc retenez ça, hein. L'Algérie française, c'est jamais une certitude, c'est jamais gagné, et la seule période pendant laquelle ça l'est à peu près, je dirais, c'est peut-être 1880 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, mais même pendant cette période-là, du point de vue des autorités coloniales, on perçoit toujours des menaces. Hein. Voilà. Alors, deuxième point, sur la frontière juridico-politique. Donc ce déséquilibre flagrant dans le statut des populations. Alors, jusqu'en 1865, étrangement peut-être, les régimes français qui se sont succédés ne se sont pas posé la question de savoir quel statut ils allaient donner aux habitants de cette Algérie qu'ils étaient en train de conquérir et de coloniser. C'est-à-dire que aucun texte ne les déclare français, mais aucun texte ne se prononce sur leur nationalité ni sur leurs droits. Et en fait, il a fallu qu'un avocat juif d'Algérie pose la question de son statut pour que celle-ci soit résolue. Je m'explique. Cet avocat, donc juif d'Algérie, avait été venu à Paris, avait fait des études de droit, et puis il rentre et il veut s'inscrire au barreau d'Alger, tout simplement, c'est dans les années 1850. Et là, le barreau d'Alger lui dit « Ah ben non, monsieur, pour vous inscrire au barreau d'Alger, il faut être français et vous n'êtes pas français. » Alors ce monsieur, il dit « Ben oui, mais alors qu'est-ce que je suis ?» Et donc, il fait des recours au tribunal administratif, ça arrive jusqu'à Paris en franchissant les degrés des appels qu'on peut faire face aux décisions des juridictions. Et donc, finalement, la question qu'il pose, c'est est-ce que je suis français ? Est-ce que je peux m'inscrire au barreau ? Moi. Bon. Et il sort de cette affaire la nécessité d'imaginer un statut pour ces habitants de l'Algérie, juifs et musulmans à l'époque. Hein ? Alors, il y avait un problème posé par la capitulation du 5 juillet 1830, c'est que dans cette capitulation, dans cette convention de capitulation, les Français s'étaient engagés à respecter la religion et les mœurs et coutumes des habitants de l'Algérie. Et donc, le problème posé de ce point de vue, c'était que si on les déclarait citoyens français et qu'on les soumettait au code civil, eh bien, il y avait des pratiques, notamment en matière matrimoniale, qui ne pourraient plus exister, notamment, par exemple, la polygamie ou la répudiation. Les Juifs aussi étaient polygames en Algérie. Alors, il ne faut pas fantasmer sur la polygamie, hein, il ne faut pas imaginer 100% des Algériens avec 5 femmes. C'est difficile de faire des statistiques, mais en gros, dans des études qu'on a juste avant 14, c'est quoi 6-7% des Algériens dont on estime qu'ils ont 2 femmes. Hein. Il ne faut pas fantasmer sur la polygamie. Mais en tout cas, pour les juristes français, il y avait un problème. On a un droit musulman en vigueur en Algérie qui ne condamne pas la polygamie, qui autorise la répudiation. Et si on les déclare citoyens français et qu'on les soumet au code civil, on craint le pire. Alors, ce n'est pas dit que le pire se serait produit, c'est-à-dire que ça aurait provoqué des émois. Mais en tout cas, du coup, il sort un statut étrange qui a été inscrit dans un senatus consulte du 14 juillet 1865, notamment à la suite de cet avocat là qui veut s'inscrire au barreau d'Alger et qui dit « mais si, moi je suis français, j'ai le droit de m'inscrire ». Je lui dis « mais non, monsieur, vous ne pouvez pas ». Ce statut, donc, on est sous le Second Empire, c'est Napoléon III. Hein, il explique que les habitants de l'Algérie, les indigènes musulmans et israélites, sont sujets français, mais qu'ils restent soumis à leur statut personnel, musulman pour les musulmans, et à la loi mosaïque pour les juifs. Ça veut dire qu'ils sont français en théorie, mais que pour tout ce qui est du statut des personnes, ils ne sont pas soumis au code civil, on va continuer d'appliquer le droit mosaïque ou le droit musulman. Et on estime que, du coup, ils ne sont pas pleinement français et donc ils ne sont pas citoyens. Ils n'ont pas tous les droits du citoyen. Alors, c'est évident en matière de droit de vote, mais ça a des effets dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine des emplois publics, tous les emplois ne leur sont pas ouverts. Si je prends l'exemple de la magistrature que je connais bien, les sujets français... alors musulmans, parce que les juifs, je vous dirai après, finalement ils ont été complètement assimilés, jusqu'en 44 ne pouvaient pas devenir magistrats, mais ils avaient le droit d'être greffiers, hein, voilà. Donc ils pouvaient être avocats aussi, hein. Donc en fait ils avaient droit dans le domaine judiciaire d'accéder à toutes les professions auxiliaires, mais pas à la magistrature. Et dans tous les emplois publics, vous avez des réglementations très complexes qui ouvrent certains emplois aux sujets français et leur enferme d'autres. Alors, c'est fondamental ce statut parce que ce sont des sujets français, donc français non citoyens ou non pleinement citoyens avec une citoyenneté diminuée, mais on considère que d'une certaine façon, c'est le prix à payer pour conserver son statut personnel et ses coutumes. Et ça, c'est le débat de fond de toute la période coloniale. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des assimilationnistes pendant l'entre-deux-guerres, en fait... C'est un mauvais terme, assimilationniste. Ce sont des gens qui réclament l'égalité des droits pour les Algériens, c'est-à-dire qui réclament que ces sujets français soumis à leur statut personnel musulman puissent devenir pleinement citoyens. Mais après, vous avez un désaccord sur le statut personnel. Vous avez ceux qui pensent qu'il faut les autoriser à accéder à tous les droits du citoyen tout en gardant leur statut personnel. Et d'autres qui pensent qu'il faut... prononcer l'accès à la pleine citoyenneté, mais les soumettre au code civil. On ne peut pas être français pleinement et être soumis à un statut personnel musulman et pas au code civil. Bon. Mais vous avez des revendications, hein, pour l'accès à la citoyenneté française en conservant le statut personnel musulman. C'est pour ça que dire le courant assimilationniste, c'est un peu trop rapide, parce qu'il ne réclame pas l'assimilation et la soumission au code civil français. Il faut savoir que dans la société algérienne, alors, dans le senatus consulte, excusez-moi, il y a une procédure qu'on appelle la naturalisation qui permet au sujet français de statut personnel musulman d'accéder à une pleine citoyenneté, mais le prix à payer, c'est qu'ils doivent renoncer à leur statut personnel musulman, ils doivent faire une déclaration comme quoi ils se soumettent au code civil. Et évidemment, dans la société algérienne, ça s'était vécu comme un acte d'apostasie. On considérait que se soumettre au code civil et laisser tomber le droit musulman, c'était tourner le dos à ce qu'on était et à sa religion, hein. Et dans la société algérienne, ceux qui avaient accompli cette procédure, parce qu'il y en a 6 000 sur toute la période coloniale, donc c'est pas beaucoup de gens, mais il y en a quand même, on les appelait les mtourni, ils ont tourné leur veste, hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est le statut des Algériens, sujet, donc d'un côté pas pleinement citoyen, mais d'un autre côté ils conservent leur statut personnel. Les juifs étaient dans cette situation là en 1865, ils sont inclus dans le senatus consul du 14 juillet 1865. Mais il se passe que en 1870, on décide de les assimiler totalement. Il y a un décret qui est très connu, qui est le décret Crémieux du 24 octobre 1870, qui décide que les Juifs d'Algérie, on dit les Israélites plutôt à l'époque, deviennent pleinement citoyens français et qu'ils ne peuvent plus conserver leur statut personnel et qu'ils vont être soumis au code civil français. Alors, pourquoi cette distinction entre juifs et musulmans qui est faite à ce moment-là? C'est tout simplement que il faut se replacer dans le cadre d'un mouvement, je dirais, d'émancipation des juifs qui existent à ce moment-là en métropole, où il y a un combat qui est mené et qui considère qu'il faut absolument émanciper les minorités juives de tout statut contraignant et réducteur, quelles que soient les sociétés dans lesquelles elles vivent. Hein. Et donc Adolphe Crémieux, qui signe ce décret, il présidait un mouvement qui préconisait l'égalité des droits pour les juifs, et c'est ce mouvement-là de métropole qui a porté la signature du décret, hein, sur des revendications finalement très métropolitaines. Hein, voilà. Alors, donc du coup, on a une première séparation, hein, entre les sujets français qui maintenant ne sont plus que les musulmans. Alors moi je dis les Algériens, mais à l'époque on disait les musulmans, et puis les juifs qui sont assimilés par ce décret, qui deviennent pleinement français. Alors ça a évidemment des effets très forts en termes de droit, mais il faut souligner que pendant toute la période coloniale, les juifs d'Algérie sont restés soumis à l'antisémitisme des Européens. L'antisémitisme est très fort dans les années 1930. Il y a notamment, par exemple, le maire de Sidi Bel Abbès, dans les années 30, qui raye tous les juifs de sa commune des listes électorales et qui reprend les textes du décret Crémieux et qui demande à tous les juifs de sa commune de prouver que le décret Crémieux s'appliquait bien à eux pour prouver qu'ils sont pleinement citoyens. Voilà. Et puis, c'est aussi connu, pendant la période de Vichy, le régime de Vichy abolit le décret Crémieux, et les mesures antisémites en Algérie ont été particulièrement dures parce qu'il y a eu un numerus clausus dans les écoles et dans les universités. Donc ça, on trouve ça dans des récits de juifs d'Algérie. Ils ont été, pendant la Seconde Guerre mondiale, exclus des écoles, hein, parce qu'on avait fixé des quotas. Et puis après, le décret Crémieux a été rétabli. Bon. Donc, cette population juive, qui est dans un entre-deux, qu'on peut dire mieux traitée, hein, que la population musulmane, entre guillemets, mais qui reste quand même dans une fragilité sociale, c'est-à-dire qu'elle est protégée par les textes, pas sous Vichy, mais elle reste soumise à des flambées d'antisémitisme européen. Il y a aussi des flambées, par contre, un mouvement antisémite fort dans les années 1890 chez les Européens d'Algérie. Bref. Alors, le troisième groupe, c'est celui des Européens d'Algérie. Alors, les migrations ont commencé assez tôt. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, l'Europe est une terre d'émigration. Hein, donc, l'Algérie, c'est une destination possible parmi d'autres. Et jusqu'en 1851, les Européens autres que Français sont plus nombreux que les Français. Hein, donc, c'est vraiment une population européenne, au sens où, jusqu'en 1851, parmi les migrants venus d'Europe, les Français étaient minoritaires. C'est à partir de 1851 seulement qu'ils sont majoritaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit la population européenne d'Algérie. Alors, le problème qui s'est posé pour les autorités coloniales, c'était d'arriver à créer une sorte de melting pot et faire en sorte que cette population européenne, finalement très hétérogène, puisse former un seul groupe solidaire. Et le texte fondamental, là, c'est une loi du 28 juin 1889, qui est une loi, en fait, qui est une grande loi sur la nationalité française, qui a consacré le droit du sol. Et dans cette loi, il est écrit que tout enfant d'étranger né sur le sol français peut acquérir la nationalité française avec certaines conditions. Et donc, évidemment, si vous prenez, je ne prends pas tout à fait au hasard, des Espagnols qui sont installés en Algérie, eh bien, ça s'applique à leurs enfants qui sont nés sur le sol français. Alors, pour dire quand même un peu le jeu avec les textes, ce texte s'appliquait évidemment aux Marocains et aux Tunisiens qui vivaient en Algérie, il y en avait. Mais les autorités coloniales ont toujours fait en sorte d'essayer de les écarter du bénéfice de cette loi, alors même qu'il y a des recours en justice qui vont jusqu'au Conseil d'État et où la haute juridiction rappelle que cette loi s'applique aux Marocains et Tunisiens, puisque ce sont des étrangers sur un sol français et que leurs enfants sont nés là. Et malgré tout, les autorités, je parle au niveau du gouvernement général, ont fait toujours blocage. Hein. Voilà. Ça ne s'appliquait pas aux Algériens, hein, puisque eux, ils étaient déjà français. Ils étaient déjà sujets non citoyens, mais du coup, là, ça ne marchait pas. Ils ne pouvaient pas dire « nos enfants sont nés sur un sol français, par le droit du sol, ils deviennent citoyens », puisqu'ils avaient déjà un statut à part.